Bonsoir, et nous voici à nouveau sur les ondes de Radio Galère pour une nouvelle soirée du deuxième mercredi du mois pour un dossier spécial sur le Venezuela, en compagnie de notre invité qui est là, Romain Migus, qui va nous parler savamment de ce qui se passe depuis des années dans ce pays et encore aujourd'hui de nos jours, en compagnie donc de l'équipe de Comaguerre, Roselyne, bonsoir, Edouard, bonsoir, et puis dans la cabine technique, Sidi et son assistant, bonsoir. Hachim, qui est très content d'être là, et qu'on salue. Et donc, on va parler ce soir du Venezuela. Et on va commencer d'abord par, évidemment, demander à Romain Migus de se présenter, de se situer dans ce contexte politique de ce pays, pour qu'on sache d'où il parle, comme on dit sur les radios. Romain, à toi.
Bonsoir Bernard, merci pour l'invitation. Bonsoir Roselyne, bonsoir Edouard. Sidi Hachim, un grand coucou. Et bien évidemment... Merci aux auditeurs de Radio Galère de nous suivre dans cette nouvelle aventure des chroniques de Comaguerre. Donc, écoutez, je me présente, Romain Migus, journaliste écrivain. J'ai vécu 10 ans donc, au Venezuela en accompagnant la révolution bolivarienne de 2004 à 2014. Et puis après, j'ai aussi vécu en Équateur. Accompagnant la révolution citoyenne de Rafael Correa jusqu'à son départ. Non, la trahison, heureusement, je ne l'ai pas connu sur place.
Ça a dû être douloureux.
Mais oui, en tout cas. Donc, c'est-à-dire, finalement, j'ai vécu donc, depuis assez jeune, déjà du côté du pouvoir, non ? Ce qui est pour quelqu'un de ma génération complètement, on va dire... Décalé et rare. Et j'ai pu témoigner moi-même, puisque j'étais finalement un acteur de plus de ces grands mouvements populaires, de ces grandes révolutions, j'ai pu témoigner de l'enthousiasme de ces mouvements populaires. Et je dirais même encore maintenant, parce qu'on parle beaucoup de fin de cycle, de fin de je sais pas trop quoi, etc. Mais quand vous avez passé par... par 10 ans ou plus de changements sociaux, politiques, culturels profonds, ça laisse des traces indélébiles et évidemment, ça prépare aussi l'avenir. Il ne faut pas se résigner. Mmh. Alors, évidemment, en France, on avait pendant très longtemps, on s'est très longtemps résigné. Visiblement, des choses sont en train de bouger. Mmh. Et je crois que d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est très intéressant pourquoi ? J'espère que la présentation personnelle vous a plu.
Bien sûr, tout à fait.
Vous voulez des informations encore plus intimes. c'est très intéressant parce que...
Je vis à Marseille. La plupart du temps à Marseille.
Même,
tu fais un saut de temps
J'y suis allé, 3 mois à partir de mai. De cette année.
Tu as des relais d'information réguliers.
Voilà. Évidemment, et puisque je continue évidemment à travailler tous les thèmes autour de l'Amérique latine. Des thèmes politiques. C'est intéressant parce que je crois qu'il faut se rappeler que l'Amérique latine est le continent qui a expérimenté la théorie néolibérale. Théorie néolibérale qui était confinée au départ dans des think tanks comme la Société du Mont Pèlerin. Ouais. Ces gens-là étaient considérés comme des marginaux économiques après la Seconde Guerre mondiale, où on était plus centré sur l'État-providence. Mm-hmm. Ils se sont préparés, ils ont rangé leurs freins. Et c'est avec la dictature de Pinochet que prend l'envol de cette théorie économico-politique et philosophique aussi, parce que c'est une manière de voir le monde. Et donc, ce n'est pas anodin que l'Amérique latine, qui a été néolibéralisée dès les années 70, ait connu les premiers...
Et violemment.
ait connu les premiers des mouvements de réaction, finalement, qui sont les mouvements qu'aujourd'hui, nous, en Europe, et particulièrement en France, aujourd'hui, on peut le voir, nous sommes en train d'expérimenter. Donc, on pourra, là, dans la discussion qu'on va avoir, faire des parallèles, parce que ce n'est pas une métaphore. Mmh. C'est juste que le néolibéralisme, étant une théorie économique, on a beaucoup reproché aux soviétiques, à une certaine époque, enfin, une certaine gauche, lui reprocher d'appliquer la même théorie sur les pays, sur certains pays, sans tenir compte des aspects culturels, etc., etc. Il n'empêche que le néolibéralisme fait exactement la même chose.
Tout à fait.
Et donc, il produit les mêmes effets, ou les mêmes conséquences, donc appauvrissement généralisé de la population, atomisation de l'État, destruction des services publics, une destruction des codes moraux, culturels des pays, un individualisme généralisé, etc. etc. Donc les mêmes conséquences, mais aussi les mêmes réactions. Mmh. Et ça c'est intéressant, parce que c'est les mêmes réactions qui ont amené les peuples vénézuéliens, équatoriens, brésiliens, argentins à amener de nouveaux espoirs politiques. Et aujourd'hui, on en est en France, en tout cas, je parle de la France parce qu'on est en France, mais on pourra aussi élargir peut-être à la limite sur le continent européen, mais en tout cas en France, on voit que après les conséquences, il y a les réactions qui se propagent, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, sont les mêmes réactions épidermiques, demandes de souveraineté, demandes de démocratie et demandes de social qui ont poussé les peuples latino-américains sur le chemin de leur révolution.
Alors il faut ajouter qu'en plus, Pinochet ouvre la porte à toutes les dictatures militaires du continent.
Pinochet ouvre la porte et il ouvre la porte aussi à l'application de la théorie néolibérale sur tous les pays du continent.
Voilà. Puisqu'on a donc les coups d'État militaires argentins, puis brésiliens, enfin tout le continent bascule pratiquement dans sa totalité. À l'exception alors de la Colombie, parce qu'on en reparlera peut-être, qui est une espèce de dictature démocratique, qui est toujours dans le même état, c'est-à-dire il y a une apparence de démocratie. Il n'y a pas une dictature militaire, mais les militaires font ce qu'ils veulent et tuent qui ils veulent quand ils veulent, en gros.
Au Venezuela, c'est la même chose.
Voilà, voilà.
Voilà. Non, mais c'est intéressant, parce que la dernière fois donc, que tu m'as invité... effectivement, on n'avait pas le temps de parler, on n'avait pas beaucoup de temps.
Prenons-le.
On a dû se concentrer sur le blocus économique féroce qui sévit aujourd'hui contre ce pays. Mais comme aujourd'hui, on a un petit peu de temps, je crois qu'il est bon de rappeler aux auditeurs comment est née la révolution bolivarienne. Et la révolution bolivarienne au Venezuela, elle est née à partir d'un peuple asphyxié par des mesures néolibérales, par la destruction de l'État, par la destruction totale des services publics. Et je vais même vous raconter une anecdote personnelle. En ce moment, il y a des grèves à répétition dans l'école de ma fille. Et ma femme, qui est vénézuélienne, me dit « Écoute, au niveau de l'éducation, c'est exactement la même chose qui se passait au Venezuela à la fin des années 80. » Elle me dit, on avait des grèves à répétition parce que les profs ne pouvaient plus, ils n'étaient pas payés, parce que les personnels scolaires ne pouvaient plus joindre les deux bouts, ils demandaient. Donc ce que je vous dis, c'est pas une espèce de d'élucubration ou de métaphore intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire là, on ne compte pas vraiment de situations concrètes. Et donc.
Non, puis elle, ça le renvoie à son vécu.
En plus, pas la meilleure partie d'ailleurs. Voilà, et donc, ce qui a mis le feu aux poudres au Venezuela, dans le mille, c'est une augmentation du prix de l'essence.
Et voilà.
Augmentation du prix de l'essence qui s'est traduite au Venezuela par une augmentation du prix des transports. Parce qu'il n'y avait pas, avant Chavez, de transport public. Donc, c'était des transports en commun privés, donc qui répercutaient sur le billet le prix de l'augmentation de l'essence. Et donc, ça a donné des émeutes. Ça a donné ce qu'on appelle le Caracasso. Il y a eu une féroce répression. Alors là, par contre, on ne peut pas encore comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque il y a eu 2000 morts au Venezuela. Mais si vous voulez, la gestation de la révolution bolivarienne commence finalement aussi avec l'augmentation de l'essence. Non, c'est quand même une coïncidence, on va dire, heureuse, non, dans le déroulement du monde. Et donc, eux, ça leur prend 10 ans.
En plus, dans un pays producteur, c'est une entreprise publique qui produit.
Tout à fait.
Et donc, elle augmente quand même.
Tout à fait. Parce que c'était les PAC. C'était les PAC du FMI. C'était les PAC néolibéraux. Ouais.
En quelle année?
En 1989. En 1989. Et ça leur prend 10 ans. 10 ans pour trouver une figure publique qui va, de manière générale, s'imposer au-dessus des partis une figure qui va, on va dire, contenter tout le monde, qui est bien sûr Hugo Chavez, et dont la première revendication était de changer de constitution. Et là, c'est intéressant pour deux raisons. La première, parce que au moment où Chavez est élu, il commence à lancer des comités constituants. Ces comités constituants, c'est tout le peuple qui travaillait, non, à l'élaboration de nouveaux codes qui rentreraient dans la Charte suprême. Et ensuite, effectivement, il y a eu l'élection d'une assemblée constituante, mais le débat s'est poursuivi avec tous ces comités pour justement que chacun puisse amener la pierre à l'édifice, etc. Et en 2000, une nouvelle constitution est approuvée par référendum, à 76%, si ma mémoire est bonne, peut-être que c'est 75%, excusez-moi, mais en tout cas, une très très large majorité. Et là où c'est encore plus intéressant, chers auditeurs, ou chers gilets jaunes qui nous écoutaient, c'est que dans cette nouvelle constitution, il y avait un point particulier sur lequel le peuple voulait s'imposer, il voulait l'imposer dans la nouvelle charte suprême. Il y a 350 articles, mais particulièrement, il y en a trois qui sont assez intéressants, qui sont l'article 72, 73 et 74 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui sont les articles de la Constitution qui traitent du référendum d'initiative citoyenne. Article 72, tout élu est révocable par référendum. Du conseiller municipal au président de la République. Article 73, tout projet de loi à l'Assemblée nationale peut être l'objet d'un référendum populaire. Et article 74, toute loi peut être abrogée partiellement ou totalement par référendum populaire. Donc finalement, vous voyez, le Venezuela que nos médias répètent à volo et jusqu'à non plus pouvoir, que c'est une dictature, finalement, dans sa charte suprême, a des éléments éminemment démocratiques. Et peut-être que ce n'est pas un hasard que ces médias cachent la réalité, notamment de l'histoire de la révolution bolivarienne, quand dans le même temps, en France, ce sont exactement les mêmes demandes qu'est en train de faire le peuple. Donc, quand je dis coïncidence heureuse, c'est une coïncidence plus qu'heureuse, puisque augmentation du prix de l'essence donne la naissance de la révolution bolivarienne, assemblée constituante et référendum d'initiative citoyenne. Évidemment, il n'y a pas eu que ça dans cette constitution, mais je crois que c'est assez intéressant de le planter là pour notre débat.
C'est vrai. Je voudrais poser une question. C'est comment on déclenche ce processus au niveau de la constitution ? Le peuple fait appel à... Fait signer des citoyens.
Oui,
fait...
oui. C'est ça. Alors, le Venezuela, il faut le rappeler, a été pionnier. Donc, c'est le premier pays, en tout cas pour le président, à avoir ce référendum d'initiative citoyenne, de révocation des élus et de révoquer des lois aussi, non ? Le tout. D'accord ? Alors, pour révoquer l'élu, il faut la signature de 20% des inscrits. Mais quand c'est très politisé, vous allez dire 20% des inscrits, c'est trop. Peut-être, mais ça se discute. Peut-être. Dans ce qu'ils ont pris en compte, et puis je rappelle, on est en 1999, donc la Constitution a été votée en 2000, donc c'était il y a 20 ans déjà, ils ont pris en compte qu'effectivement, il fallait 20% des élus. Si je ne m'abuse, pour les lois, c'est 15%. Ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a pas empêché des référendums. Il y a eu plusieurs référendums, il n'y en a pas eu à l'appel. Il y a eu plusieurs référendums, dont un référendum contre Hugo Chavez en 2004. C'est-à-dire qu'il y a eu 20%, même un peu plus, de personnes qui ont signé pour avoir un référendum. Et les signatures ont été vérifiées. Donc les morts qui avaient signé, on a mis ça à la poubelle. Les gens qui avaient signé 4 fois, on a mis ça à la poubelle aussi, on n'en a pris qu'une fois. Mais ils avaient 20%, donc Chavez a dit, écoutez, en fonction de ce qu'a dit le pouvoir électoral, ça c'est très important, au Venezuela il n'y a pas 3 pouvoirs, il y en a 5. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir moral et le pouvoir électoral, qui est un pouvoir indépendant des 4 autres. Mmh. Moi, quand je dis à mes amis vénézuéliens qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de l'organisation des élections, ils me disent, c'est heureusement pas... que ça ne se passe pas chez nous, on aurait déjà les avions, les Marines qui débarqueraient. C'est-à-dire un pouvoir électoral indépendant qui, donc, là, dans ce cas, épluche qu'un tribunal électoral, donc indépendant du tribunal, des tribunaux judiciaires normaux, puisque ce n'est pas le même pouvoir. Et donc, il épluche. Et donc, voilà, il y a eu... Et alors, en plus de Chavez, Il y a eu aussi des référendums sur des maires, sur des conseils municipaux, etc. Alors effectivement, il n'y en a pas eu énormément non plus. Alors après, c'est tout un débat qu'on peut avoir, parce qu'il faut aussi... un pays ne peut pas passer tout son temps dans une guerre électorale et tout son temps en campagne électorale. Donc c'est aussi trouver la juste mesure entre le nombre de signatures nécessaires pour lancer un référendum révocatoire sur une loi ou sur une personne, et puis assurer aussi la continuité du travail d'un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs. Voilà. Oui, pour ne pas utiliser l'arme en fait, des révocatoires pour finalement empêcher l'action d'un gouvernement, encore une fois, quel qu'il soit.
Voilà. Parce que si on disait qu'il suffit de 5% des électeurs, à ce moment-là, ça serait tous les 4 matins.
Non, mais ça deviendrait en plus une stratégie pour empêcher le gouvernement de travailler. Donc, alors après, 20%, c'est peut-être trop... Je n'ai pas d'idée là-dessus. Toujours est-il qu'au Venezuela, en tout cas, c'est ce chiffre-là qui a été retenu.
Et Chavez a gagné.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
ceux qui ont fait signer voulaient la révocation de Chavez, et Chavez a gagné.
C'est ça. C'est-à-dire que une fois que le référendum est approuvé, donc on va à un référendum, et effectivement, comme tu le mentionnes, Chavez a gagné par 60% en 2004. Ouais. Et alors, le référendum peut avoir lieu une seule fois. Ouais, c'est-à-dire, si je veux révoquer Bernard des chroniques de Comaguerre... Voilà. On va réunir les signatures. Si je gagne, enfin non, si vous signez, ouais. Les salauds. Si Bernard gagne, je ne peux pas recommencer la semaine prochaine. Il faut que j'attende.
Je serais fâché.
Et voilà, il faut que j'attende la fin du mandat de Bernard. Exactement.
Bon, donc ça c'est très très important parce que, alors tu faisais référence à la situation française. Imagine que demain on dise aux Gilets jaunes, écoutez, patientez un peu, légalement vous pouvez dans 3 mois récolter les signatures et on vote pour ou contre Macron en janvier ou février. Hein, c'est pas la peine de s'entretuer d'ici là. On va dire, voilà, Macron est soumis à réélection, à révocation éventuelle au mois de mars. Bon, et on y va. Et on fait la campagne. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien, et on vote, et le peuple tranche.
Exactement.
C'est ce qui est impossible de faire aujourd'hui.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Ça, donc, encore une fois, ça marche donc, au Venezuela sur n'importe quel élu ou sur les lois.
Ou sur les lois.
Alors, donc, ça veut dire, par exemple, la loi travail, on aurait pu aussi récolter les signatures, la soumettre à référendum,
Absolument.
etc.
Voilà. Voilà déjà donc une ouverture démocratique dans le vrai sens de la démocratie, c'est-à-dire qu'on n'est pas, et ça c'est très important dans la situation actuelle, on n'est pas élu avec tous les pouvoirs et toutes les assemblées dans sa manche et on fait ce qu'on veut jusqu'à l'année 5-1, hein, quitte à faire des cadeaux dans les 3 derniers mois de la campagne électorale. Parce que c'est exactement là, dans ce schéma, que nous sommes, enfin, que la République française est enlisée.
Voilà. Et je crois qu'il faut, quand... Tu me donnes l'opportunité de revenir un peu à la source, à la naissance de la révolution bolivarienne. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le mécontentement s'est organisé. Donc après, on pourra faire les parallèles qu'on veut. Mais c'est organisé autour de trois piliers qui étaient la revendication démocratique, donc ce dont on vient de parler, la revendication sociale, c'est-à-dire... prendre les mesures sociales qui s'imposent pour reconstruire l'État, reconstruire les services publics, notamment en matière d'éducation, de santé, de logement, de culture, etc., etc. Et puis, il y a un troisième point qui était la revendication de souveraineté. Et je crois que c'est aussi très important, parce que le Venezuela d'alors était complètement assujetti aux décisions du FMI, de la Banque mondiale et des États-Unis. Finalement, c'était une colonie. Chavez le répétait suffisamment à l'envi. Donc, il opposait évidemment le sentiment patriotique à la continuation de cette colonie. C'est aussi un thème qui, je crois, aujourd'hui, peut se transpasser complètement en sachant le poids qu'a la Commission européenne, que personne n'élit, d'ailleurs, soit dit en passant, sur les politiques... élaboré pour notre pays. Donc, c'est-à-dire que là, on arrive, et coïncidence heureuse, comme j'aime répéter, on arrive sur, finalement, les trois mêmes piliers de revendications. Alors, je parle du Venezuela, mais c'est sensiblement les mêmes piliers qui ont amené des gouvernements semblables dans toute l'Amérique latine de la première décennie du XXIe siècle.
Alors là, là aussi, on revient à la situation franco-européenne, c'est-à-dire que quand on prend dans des périodes calmes, on interroge un député à l'Assemblée nationale, il va reconnaître très honnêtement que 60 ou 70% des textes qu'il approuve sont des textes de l'Europe que l'Assemblée nationale française ne fait que mettre en application.
La loi travail, par exemple.
La loi travail. Bon. Et donc ça, ils oublient de le dire. Alors là, ils le disent plus ces jours-ci, mais en fait, ils oublient de le dire. En fait, quand on les prend entre quatre yeux gentiment, ils disent « Oui, notre travail, c'est d'entériner ce qu'a décidé Bruxelles ». Bon, là, il y a effectivement perte de souveraineté, évidente.
Oui, qui était les PAC pour l'Amérique latine, c'était pas Bruxelles, évidemment, mais c'était les PAC d'ajustement structurel du FMI, et c'était les mêmes politiques. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Toujours dans le cadre néolibéral.
Exactement. Ouais. Décentralisation à outrance de tous les services, donc qui arrivent dans des régions ou dans des villes qui ne peuvent pas payer parce que c'est trop cher. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles les vendent, elles les privatisent, etc. Destruction et atomisation de l'État. C'est le même PAC qu'on retrouve d'un côté ou l'autre de l'océan.
Alors nous voilà donc en 2000, cette constitution extraordinaire, je veux dire extraordinaire, parce que est-ce qu'il y a d'autres cas sur la planète de constitution où existe ce type de dispositif que tu viens d'écrire?
Alors, il me semble que en Équateur, oui, il y a aussi des dispositifs pris, mais je veux dire dans cette volonté, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc le Venezuela était le pionnier, mm-hmm, et ensuite il y a eu les mêmes procédés, il y a eu une nouvelle constitution en Bolivie, une nouvelle constitution aussi en Équateur. Donc ça a été aussi un peu les mêmes systèmes. Après, pour ce qui est... Ce n'est pas des calques. Hein. Chaque pays a bien fait sa propre constitution, en fonction d'ailleurs du travail des comités constituants, en fonction de la culture aussi de chaque pays. Depuis l'Europe, on a tendance à mettre tous les pays... d'Amérique latine dans le même sac, c'est l'Amérique latine. Oui, certes, oui. C'est le rêve de Bolivar. Moi, j'ai toujours le rêve de Bolivar. Il est dans l'esprit des Européens qui considèrent l'Amérique latine comme un seul pays, et c'est fantastique. Mais il y a quand même de grandes différences culturelles entre entre tous les pays de la région. Et donc, effectivement, ça se ressent aussi dans les constitutions. Mais voilà, c'est l'esprit, en fait. Non, comment c'est né? Et évidemment, avec cette nouvelle constitution et les mesures sociales, les réponses à l'urgence sociale, la révolution bolivarienne au Venezuela s'est attirée les foudres de la contre-révolution, des élites, de l'oligarchie et aussi des classes moyennes supérieures et même des classes moyennes qui se sont senties flouées. C'est-à-dire qu'avant avant l'arrivée de Chavez, la politique se faisait en fonction de deux, évidemment, des élites économiques et politiques. Et d'un coup, la politique se braque sur l'immense majorité du peuple vénézuélien. Donc certaines personnes ont dit « Mais alors, nous, etc. » Bon, ils vivaient très bien, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, évidemment, ça crée une nouvelle hégémonie politique, de nouvelles formes d'opposition. Et les États-Unis sont aussi entrés en jeu là-dedans, ce qui a donné, depuis l'avènement d'Hugo Chavez au pouvoir, des mesures coercitif très fort, tentative de coup d'État, sabotage économique, sabotage de l'électricité, guerre économique, sanctions économiques. Alors là, à partir donc de 2014, donc effectivement, les élites économiques, politiques, bancaires ne s'avouent jamais vaincues. Et à la limite, c'est normal, puisque on leur quitte une partie de leurs privilèges. Qui vont essayer de récupérer.
Ils étaient les seuls à avoir voix au chapitre.
Et, avant, ils étaient les seuls à avoir voix. Évidemment, ils étaient les seuls à avoir voix au chapitre.
Et eux, on va les laisser libres de leur mouvement. C'est ça sur lequel il faut insister. C'est-à-dire, ils ne s'instituent pas une dictature d'Hugo Chavez.
Pas du tout. D'ailleurs, tous ceux qui ont participé au coup d'État contre Hugo Chavez n'ont jamais été poursuivis par la justice. Voilà. Quand on disait que la justice était aux ordres, la justice, à l'époque, a conclu qu'il y avait eu un vide de pouvoir. Ah ben oui, un vide de pouvoir, un coup de baïonnette, oui, c'est sûr que... D'accord. Mais donc, du coup, personne, comme il n'y avait pas eu juridiquement un coup d'État, donc personne n'a été poursuivi.
Oui, je te rappelle, le coup d'État a duré 48 heures.
Et voilà, c'est le peuple qui avait ramené Hugo Chavez au pouvoir. Mais la violence contre la révolution bolivarienne, finalement, n'a jamais cessé depuis l'accession d'Hugo Chavez au pouvoir. Ouais. Et aujourd'hui, elle est complètement exponentielle et elle s'exprime sur plusieurs fronts à la fois.
Alors, donc, le voilà qui arrive au pouvoir. Donc les premières mesures qu'il prend, tu peux nous les décrire un peu, enfin, outre l'application de la Constitution.
Alors j'avais essayé délicatement de sauter quelques années.
Quelques années,
je voyais,
oui. Non, non, bien sûr.
8h30.
Non, mais, on a commencé
non,
avec
mais comme je dis, donc en fait, ce qui est important, c'est que les premières mesures effectives ont été les... Mais t'as raison, on va recommencer par là, parce que c'est important. C'est-à-dire que le peuple s'est organisé autour de ses comités constituants pour participer à l'écriture et l'élaboration de leur nouvelle constitution. Ensuite, il y a eu la convocation de comités d'éducation au sein de la mission Robinson, qui était une mission d'alphabétisation. Chavez a essayé de passer par les structures de l'État en début des années 2000. Ils ont réussi à alphabétiser des gens, mais pas en nombre suffisant. Donc, ils sont passés par les organisations populaires. Pourquoi les organisations populaires ? Ben parce que les organisations de quartier populaires savaient qui ne savait lire, qui ne savait pas lire. Il y avait plus de confiance, parce qu'il y avait une honte. Chavez a dû faire des discours à la télévision en disant « n'ayez pas honte », etc. Et en un an et demi, ils ont alphabétisé 1 500 000 personnes. Et l'UNESCO, qui est évidemment un repère de bolcheviques... l'UNESCO a déclaré en octobre 2005 le Venezuela comme zone libre d'analphabétisme. Il y a eu la mission de santé aussi, qui s'appelait Barrio Adentro. C'est-à-dire que les médecins, tiens, encore une coïncidence heureuse, les déserts médicaux au Venezuela étaient nombreux. En campagne, on n'en parle même pas, il n'y en avait plus, il n'y avait pas de médecins. Mais aussi dans les villes, dans tous les quartiers populaires, c'est-à-dire dans 70% de la ville, il n'y avait aucun médecin, parce que les médecins généralistes ne voulaient pas aller vivre dans ces quartiers-là. Donc on avait une petite élite privilégiée qui pouvait avoir accès à des médecins privés, et puis des hôpitaux publics en lambeaux qui accueillaient absolument tout le monde, même pour une grippe, on allait à l'hôpital, et il n'y avait aucun système de médecins de proximité. Qu'est-ce qu'a fait Chavez ? Premièrement, il a appelé les médecins vénézuéliens, s'il vous plaît, retournez dans les quartiers, vous ne pouvez pas abandonner. Presque aucun n'a répondu à l'appel. Et donc c'est Cuba qui a envoyé des médecins qui se sont installés dans les quartiers populaires et dans les campagnes. Mais pour avoir un médecin, il fallait se constituer d'abord un comité populaire de santé. C'est-à-dire, il fallait trouver au médecin un lieu où vivre avant l'édification de petites guérites généralistes, faire en sorte de l'intégrer dans le quartier, etc. Il fallait un comité aussi. Après, on a eu les tables techniques de l'eau et les tables techniques de l'électricité qui étaient... c'est un peu une traduction, mais c'est dont le but... était la gestion participative de l'électricité et de l'eau. Dans des endroits où les gens piquaient l'électricité, les gens disaient « mais nous, on veut payer ». C'est que jamais on a vu quelqu'un de l'entreprise d'électricité qui avait été vendu, bien évidemment, non, qui avait été privatisé. Jamais ils viennent dans nos quartiers. Donc ça a été la gestion participative en lien avec la ville, en lien avec le ministère de l'électricité, une fois renationalisée la compagnie d'électricité. Ou renationaliser la compagnie de télécom, parce qu'il y a eu quand même de la renationalisation de secteurs stratégiques. Donc que les gens puissent s'organiser, et donc que ce soit les gens eux-mêmes qui créent des coopératives de construction pour construire la canalisation, etc. Attention, ici on ne peut pas passer, rappelle-toi, il y a une pierre, on le sait, c'est eux qui ont construit le quartier. Donc ils savaient très bien. Et ça a donné naissance aux conseils communaux. Les conseils communaux... c'est l'entité administrative la plus petite du Venezuela. Il me semble, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 200 familles dans les villes. En campagne, c'est 120. Et dans les zones indigènes, c'est 50. C'est-à-dire, c'est 200 familles x 4, ça fait 1000. Et donc, le conseil communal est divisé entre comité de logistique, comité de santé, donc c'est les gens qui participent au comité de santé, comité d'éducation, comité de culture, comité de sécurité, etc., etc. Et donc, ils connaissent leur quartier. Et donc, ils établissent, ils sont le lien des pouvoirs publics nationaux avec la communauté pour le développement interne de leur communauté. Quand je dis communauté, je parle en tant que communauté de voisinage, non ?
Oui, pas dans le sens anglo-saxon.
Voilà, pas dans le sens anglo-saxon, exactement. Enfin, non, justement, dans le sens anglo-saxon, pas dans le sens... parce que c'est le communauté, c'est plus la communauté de voisinage. C'est la communauté ni ethnique, ni religieuse, exactement.
Non, on est d'accord, ça va.
Et donc, évidemment, c'est aussi ça qui explique l'extrême organisation populaire, tout le temps, qui explique aussi le lancement des communes, qui est là aussi, coïncidence heureuse, puisque le Venezuela n'avait pas de ville. C'est-à-dire la figure de la ville n'existait pas. Ils avaient une figure qui s'appelait le municipio, qui serait à peu près l'équivalent de notre département. Alors c'est un grand territoire, hein, mais l'équivalent de notre département. Et dans le municipio, donc il y a un maire, il y avait plusieurs villes ou villages. C'est un peu les agglomérations.
Oui, vous voyez, oui,
oui. Hein, c'est les, finalement, où on cherche à arrêter sous le prétexte de simplifier l'administration, finalement dégager les communes, non,
oui,
qui sont le premier échelon.
L'échelon de base. Voilà.
Ouais. Et donc Chavez disait, donc maintenant il faut aller vers les communes, et la construction de communes doit être auto-organisée sur le modèle de rassemblement des conseils communaux avec des assemblées populaires qui prennent les décisions de la commune.
Voilà. Ne pas dépasser le niveau où le peuple n'a plus de pouvoir.
Exactement. Ouais, exactement. Donc on est là sur des échelons un peu plus importants que les conseils communaux, mais qui seraient des échelons finalement de village. Non, mais, et donc de village auto-organisé, notamment politiquement, mais aussi productivement parlant. C'est-à-dire que la commune va gérer une coopérative, va gérer ce qu'on appelle... Pas une coopérative, excusez-moi, j'ai fait une erreur, parce que la coopérative reste de la propriété privée. Or là, ce qui se développe au Venezuela, c'est de la propriété sociale, soit indirecte, soit directe. C'est-à-dire que c'est les personnes donc, de la commune qui organisent une entreprise de propriété sociale, je ne sais pas, de gestion de l'eau, par exemple, mais c'est eux qui vont l'administrer, et surtout... Les bénéfices qu'ils peuvent faire, c'est eux qui vont décider d'où elle va aller. Ils ne vont pas se la répartir comme dans le cas d'une coopérative. Le système coopérativiste a été tenté par le Venezuela. On a vu très rapidement les limites. Donc, il est passé là-dessus. Et Chavez disait quelque chose aussi très important, c'était n'attendez pas tout de l'État. Et même, n'attendez pas que quelqu'un vienne. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même, poussez jusqu'à la limite de nos propres cadres de loi pour voir. Et s'il y a un problème, eh ben, faites remonter pour qu'on modifie aussi les cadres de loi. Donc ça a donné une organisation populaire extrêmement développée et qui aujourd'hui explique pourquoi la révolution bolivarienne n'a pas coulé sous la pression des sanctions, sous la pression militaire, diplomatique, économique de l'Empire américain et de ses vassaux. C'est-à-dire qu'il y a une énorme organisation populaire. On parlera peut-être un peu plus tard certainement du CLAP, cette forme de distribution publique et participative d'aliments qui est sensationnelle, mais qui n'aurait pas été possible sans ces 15 ans d'auto-organisation populaire poussée à la fois par l'État, poussée à la fois depuis le haut, mais aussi évidemment depuis les organisations de base, exactement.
Donc c'est au fond le pouvoir central dit à la base,
organisez-vous,
proposez des choses et on exactement. Adaptera le cadre à vos avancées.
Exactement.
Ah, c'est exactement.
La loi sur les conseils communaux, évidemment, c'était du balbutiement, puisque ils font la première loi en 2006. Et la loi a été changée 13 fois. C'est-à-dire, il y a eu 13 fois, elle est repassée devant le pouvoir
pour
législatif.
Retoucher,
pour dire, mais regardez, on n'avait pas pensé à ça, ou ça, il y a une contradiction, il faut le rechanger. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui ont lu tous les livres possibles au monde et qui vont dire, bah, il n'y avait pas pensé avant, ça montre bien qu'ils n'ont pas... Oui, mais quand on invente quelque chose de nouveau, qu'on est pionnier en la matière, effectivement, bah, on tâtonne, on change, on avance, on reprend, on recule pour reprendre un chemin qui nous amènera vers nos objectifs, etc. Et donc, effectivement, là, quand je suis retourné au Venezuela là, de mai à juillet, j'ai vu que les conseils communaux avaient été... sont devenus très institutionnalisés, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire moi, quand j'ai commencé, j'ai été fondateur du conseil communal de là où je vivais, donc qui était une tour dans le centre de Caracas. On était dans le balbutiement. Enfin, c'était, je me rappelle, des réunions interminables samedi après-midi et le samedi soir... en mangeant des gâteaux secs. c'est parce qu'on avançait petit à petit. Il y avait très peu de cadres législatifs qui nous encadraient. Et puis, il fallait qu'on invente, tout simplement. Il fallait qu'on promeuve tout ça, qu'on montre aux personnes que ce n'était pas une question de couleur politique, que tout le monde pouvait participer, que c'était à nous de nous imposer. Bon, ça, c'est plus mis en doute, que je ne dise pas de bêtises, 10 ans après.
parce que je crois que c'était en 2008 qu'on l'avait lancé. 10 ans après, là, tout s'est parfaitement organisé et dans une grande partie du territoire vénézuélien. Donc ils sont passés à une nouvelle géométrie du pouvoir en accord avec les demandes des bases populaires.
À partir de ce moment-là, donc le pouvoir en fait, est stabilisé du fait qu'il est soutenu, ça veut dire, puisqu'il écoute et il fait face, enfin, il accepte les demandes, donc il a un soutien populaire, ce qui explique la difficulté de l'adversaire à le faire tomber.
Oui, alors l'adversaire, électoralement parlant, effectivement, il proposera absolument rien. Ouais. Pendant des années, il dit on va revenir à ce qu'on faisait avant. Non, désolé, ça fait 30% dans les urnes, 35% dans les urnes. Et puis après, alors il a affiné sa stratégie avec de la triangulation, c'est-à-dire on gardera les missions, mais on les améliorera. Alors quand vous alliez chercher ce que j'ai fait, j'en ai même écrit un livre, quand vous alliez chercher comment ils allaient les améliorer, ils allaient les améliorer les missions sociales en les vendant au privé. Donc évidemment, les gens ne sont pas idiots parce qu'en dehors de l'organisation de base, non, il y a aussi, ça s'est accompagné, on va dire dans le même temps, d'une grande conscience politique et d'une formation politique. C'est-à-dire que... Mais les gens n'ont pas été formés parce qu'il y a eu un professeur d'université machin qui est venu, qui leur a fait le cours, blablabla. Non, au contraire. Une grande partie, d'ailleurs, des professeurs d'université, même marxistes, étaient dans l'opposition parce que ce n'était pas le modèle que... Parce que les gens, blablabla, etc. Non, non, les gens sont formés intellectuellement et sur la conscience parce qu'ils avaient la pratique. Oui. Tout simplement. Donc, il y a une grande aussi conscience politique entre eux et nous, eux étant les élites politiques, économiques et effectivement derrière aussi l'Empire américain, qui est toujours en embuscade. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui même, le président Maduro a fait une déclaration il y a à peu près 2 heures,
oui,
où il montrait, preuve à l'appui, des mouvements dans les bases nord-américaine située en Colombie. Donc, la Colombie a 7 bases nord-américaines. Sur certaines de ces bases, il y a des mouvements de la formation de paramilitaires colombiens et vénézuéliens pour attaquer le Venezuela ou en tout cas essayer de pénétrer, provoquer etc. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça... que électoralement, et alors après, l'opposition a fait des erreurs internes et... Ça, c'est leur problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est plus considérée. D'ailleurs, la plupart de l'opposition la plus radicale ne représente absolument rien. Aujourd'hui, plus au niveau des sanctions économiques, la conséquence, qui est une baisse de la qualité de vie, on pourra revenir sur les sanctions, mais c'est une augmentation de l'abstention et absolument aucune incidence sur le vote de l'opposition qui n'apporte rien.
Oui, puisqu'à plusieurs reprises dans tout le processus, l'opposition s'est même abstenue d'aller au vote. Sachant qu'elle allait prendre des claques.
Exactement. C'est la vieille stratégie de on boycotte sous divers prétextes.
Voilà, pour essayer de dire, mais ils ne sont pas représentatifs.
Exactement.
On n'y était pas. Oui,
exactement. Là, on va rentrer d'ailleurs dans une période encore de turbulence pour le Venezuela, puisque...
Qui est annoncé.
Nicolas Maduro... prend possession de son mandat le 10 janvier, le mandat qu'il a gagné dans les urnes en mai, le 20 mai, avec donc 68% des voix. 68% des voix, c'est 34% des inscrits, non, parce qu'il y a eu à peu près 50% d'abstention. Donc 34% des inscrits. Alors pour rappel, Emmanuel Macron, au premier tour, parce qu'il n'y a qu'un tour au Venezuela, au premier tour, il a fait 18% des inscrits, non ? Le président actuel du Chili a fait 25% des inscrits. L'ancien président de la Colombie en faisait 24. L'ancien président du Mexique en faisait 23. Donc, si on le prend dans le contexte régional, mais pas seulement, si on regarde aussi en France, le résultat n'est pas si mauvais que ça, 34% des inscrits. Non ? Donc, pour diverses raisons, les pays ennemis de la révolution bolivarienne, donc à commencer par les États-Unis et leurs vassaux latino-américains du groupe de Lima, qui sont les gouvernements de droite en Amérique latine, et de l'Union européenne, ne vont pas reconnaître le président Maduro. Ils vont dire que son élection est légitime. Et donc ça l'idée étant, de comme il n'est pas reconnu, d'éviter qu'il puisse signer des accords, signer des dettes, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, certes, d'accord. Donc là, on a 27 pays européen, parce que c'est l'Union européenne qui ne va pas reconnaître. Après, il faudrait voir d'ailleurs pays par pays ici.
Ouais. Oui, oui.
Mais disons 27 pays européens, plus une dizaine...
Bon, Lima, donc c'est Chili, Pérou, Mexique...
Mexique, c'est López Obrador.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, López Obrador a invité Maduro à sa prise de possession, donc c'est-à-dire qu'il le reconnaît.
Le Mexique d'avant était dans le groupe de...
Oui, mais là, du coup...
Ça a basculé.
Donc ça fait une petite dizaine, donc on va dire que ça fait 37, plus les États-Unis, le Canada, 37 fait 40, la Suisse, et puis quelques autres pays vassaux, on va dire, allez, 50 pays, non ? À la louche. Bon, au sein de l'ONU, c'est quand même 200 pays, donc la plupart des pays... reconnaissent et vont reconnaître le Venezuela. Dans ces pays, il y a quand même la Chine, la Russie, les pays, la Turquie, l'Iran, l'Afrique du Sud, etc. Oui. Donc ça fait quand même aussi beaucoup de monde, près les deux tiers de l'humanité, et finalement un nombre beaucoup plus grand de pays. Mais vous allez voir que ça va s'imposer dans nos journaux.
Absolument.
Et ça va s'imposer d'autant plus... que si les contestations se poursuivent en janvier, ça sera peut-être un bol d'air pour M. Macron. Mmh. Et alors vous allez me dire, non, mais il est fou, le Venezuela ne s'imposera pas à la réalité des gilets jaunes. Si, parce qu'on l'a vu dans d'autres pays, où justement, l'Espagne par exemple, où quand les gouvernements sont, très critiqués ou très controversés pour leurs difficultés par rapport à leur peuple, l'Argentine aussi, on l'a vu, ils sortent de leur chapeau, le thème du Venezuela qui s'impose dans les médias, Venezuela, etc., blablabla. Et, bon, je pense que ce thème risque de s'imposer à partir de la mi-janvier.
Oh, imagine d'autant plus que s'il disait, mais laissons les bases et les comités communaux, etc., décider de l'avenir de la France, il se sentirait très inutile.
Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
Donc on ne peut pas imaginer que c'est ça qu'il souhaite. Donc, non, mais c'est très intéressant parce que c'est une nouvelle forme d'acharnement. Je crois que c'est le premier cas, à ma connaissance, d'un pays dont une grande majorité de pays riches, je veux dire, disent on ne reconnaîtra pas le gouvernement légalement élu.
Non, ce n'est pas le premier cas. La Syrie, par exemple.
Bah, oui, c'est vrai. Enfin, il était reconnu, mais...
Parce qu'il y a des élections en 2014, il me semble que la communauté internationale, je fais des guillemets micro, ceux qui nous écoutent.
Non, mais avant l'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, il n'avait pas dit qu'il n'était pas légal. C'est en 2014, qu'elle est réélue et qu'il a fait voter la nouvelle constitution, qu'on a fait comme s'il ne s'était rien passé.
Oui.
Ouais. C'est...
La Côte d'Ivoire, tout à fait. Oui, là, il a eu coup d'État contre
Laurent Gbagbo.
Voilà.
C'est toujours les mêmes, généralement. En fait, toutes ces armes contre ces pays qui essaient de récupérer leur souveraineté, essayer de faire bouger un peu les lignes politiques, font partie d'un arsenal commun, qu'il soit militaire, diplomatique, économique.
Tout y passe.
Ouais.
C'est ce qu'on range sous la catégorie institutionnelle, la catégorie des guerres de quatrième génération.
Exactement.
Est-ce que tu peux développer sur ce thème
La guerre de quatrième génération a été théorisée par des militaires américains en 1989, d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, grosso modo, c'est une évolution dans le système des guerres traditionnelles. Mm-hmm. Et dans la guerre de quatrième génération, l'ennemi n'est plus l'armée d'en face. L'ennemi, c'est tout le peuple du pays attaqué. Donc on n'est plus dans une confrontation entre armées dans les tranchées, donc ça qui était la guerre de deuxième génération.
Oui, oui.
Mais on est dans un modèle militaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui contemple des attaques donc psychologiques, des attaques militaires, des attaques économiques, des attaques diplomatiques, c'est-à-dire tout un arsenal pour faire tomber l'ennemi, mais en prenant pour cible la population entière du pays visé.
Voilà. Et en mélangeant l'officiel et le clandestin.
Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là, par exemple, je reprends les paroles de Nicolas Maduro, donc d'il y a 2 heures. Pour l'année qui vient, l'année 2019, les agences des États-Unis, donc Fonds national pour la démocratie, la NED, qui dépend du Congrès des États-Unis, ou la USAID, qui dépend du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, vont débourser pas moins de 120 millions de dollars pour les ONG vénézuéliennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est devenu un business aussi. Ouais. Il y en a beaucoup qui se barrent avec la caisse. Hein. Non, bah oui, on va faire. Et ce qui se passe au Venezuela se passe aussi au Nicaragua. C'est le même modèle. C'est le même modèle de déstabilisation, financement d'ONG, tentative de coup d'État, comme on a pu voir au Venezuela en 2017 ou au Nicaragua cette année, avec des groupes extrêmement violents qui barrent les routes, etc. J'aimerais voir, d'ailleurs, si ces groupes-là faisaient ça en France, je veux dire, ça serait rigolo, parce qu'on voit la répression contre les gilets jaunes.
Oui, oui. Mais là, il s'agit d'assassinats de policiers à l'arme.
D'assassinats de policiers au M16, oui, au 9 mm, oui. De brûler vifs des gens parce qu'ils soutiennent le pouvoir. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même... Mais il y a des groupes de gauche qui soutiennent ça, qui aiment bien, on ne va pas les nommer ici, mais il y a toute une frange d'une certaine gauche, d'autres intellectuels finalement, qui soutiennent ce genre de coup d'État financé et organisé depuis les États-Unis.
Oui, il n'y a pas que dans ce cas-là.
Voilà. Et ça, donc le Venezuela a dû faire face.
Il faut s'adapter à cette guerre.
Il faut s'adapter à cette guerre. Alors militairement parlant, ils ont changé leur doctrine militaire en 2005 en disant, puisque l'ennemi c'est le peuple, organisons. Le peuple à la défense de la souveraineté nationale, à la défense de la nation. Mmh. Et donc, en reprenant d'ailleurs des éléments de leur propre guerre d'indépendance et en bâtissant la défense de la souveraineté nationale autour d'une alliance civico-militaire, c'est-à-dire de la participation des civils à la défense des centres de production et de la nation. Mmh. Adaptée à, effectivement, ces guerres hybrides et à cette guerre de quatrième génération qui... ne va pas être une confrontation entre deux groupes. Donc ça va être des fronts mouvants, etc. Ça va être certainement des petits groupes d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, etc. Les États-Unis ne cherchant pas forcément, d'ailleurs, la conquête du pouvoir et à mettre quelqu'un au pouvoir, le chaos leur sert très bien. Donc le Venezuela s'est aussi préparé à répondre à ce type d'agression militaire. C'est intéressant parce que très peu de pays qui sont préparés à justement pouvoir répondre militairement à ce type d'agression. Voilà, aujourd'hui.
Des infiltrations, des agents tout à fait.
De construction de l'État, de permanence de l'État dans certaines zones, d'alimenter la population, d'administrer les lieux.
Et l'implication citoyenne.
Et surtout d'administrer les lieux, de ne pas laisser un lieu sans administration, parce qu'il faut conquérir la population, la bataille pour la population. Donc c'est ce que faisait Daesh d'ailleurs, soit dit en passant.
Oui, tout à fait.
Daesh arrivait avec des ingénieurs, des administrateurs, etc.
Bon, et beaucoup d'argent.
Mais si vous reconquérissez un territoire pris à Daesh ou aux paramilitaires dans le cas du Venezuela et que vous ne l'administrez pas, il y a de fortes chances que la population vous lâche aussi. Donc tout ça fait partie d'une nouvelle logique de combat militaire auquel le Venezuela est préparé. Le Venezuela, en ce moment... où il y a quelques jours, a fait des manœuvres militaires donc, avec les Russes. Mmh. Les Russes ont envoyé deux bombardiers au Venezuela. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce type de manœuvre. En 2008, il y avait déjà eu, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était un croiseur qui portait des missiles nucléaires qui avait mouillé à la Guaira, donc le port de Caracas. Bon. Les Russes sont un des partenariats technico-militaires avec le Venezuela. Cuba aussi. Et donc, le Venezuela est préparé à une agression, à répondre à une agression. Le Venezuela a toujours dit, nous ne voulons absolument pas tomber dans le jeu militaire, nous voulons la paix pour nous, pour la région, nous voulons la stabilité de notre pays. Et effectivement, jusqu'à maintenant, ils ont réussi. Parce que les incursions, que certaines personnes essaient de bloquer des pays en tenant des portions de territoire armes à la main, l'idée étant de déclencher une guerre civile. Et finalement, les autorités vénézuéliennes, la police, la gendarmerie, enfin l'équivalent de la gendarmerie, a réagi de manière finalement très mesurée. Très, très mesurée. Et de fait, il y avait eu, je crois, une dizaine de policiers qui avaient tué des assaillants. Et qui ont été condamnés par la justice. Parce que l'État ne pouvait pas faillir. Il ne fallait pas tomber dans le piège de ces assaillants.
Métier. Vous êtes là pour maintenir
l'ordre. Exactement. Et alors qu'en face, effectivement, c'était
tire à volonté.
Depuis les immeubles, etc. Sniper. Oui, c'est Maïdan. Hein,
c'est Maïdan, technique du sniper, oui, qui sert encore, enfin qui sert toujours.
Voilà. Alors.
Oui.
Tu veux peut-être faire une pause, il est
9h. Oui, voilà, on va te laisser reprendre ton souffle. On va te laisser reprendre
non,
ton
je
souffle.
Dis ça pour.
Non, mais on va te laisser reprendre ton souffle.
Ça fait toujours du bien, et puis on
alors, annonce-nous ce qu'on va écouter alors.
Alors, on va écouter une des chansons de campagne de la dernière campagne d'Hugo Chavez, Chavez Corazón del Pueblo, qui a mobilisé les foules durant le mois d'août et septembre 2012.
Voilà. Cœur du peuple, hein, Corazón del Pueblo.
Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer.
Corazón es bueno, tu corazón es bueno.
Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Sin pobreza, quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer.
Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno.
Sí, yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien.
Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno.
Chavez, Corazón del Pueblo. Romain, continuons à parler des sanctions, toutes les formes qu'elles peuvent prendre, sur en particulier la consommation populaire, les magasins vides. Explique-nous tout ce mécanisme.
Alors,
comment
les sanctions,
retourner le peuple contre
voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on suit la doxa médiatique, notamment européenne, la guerre économique contre le Venezuela n'existe pas. Les sanctions ne touchent que des personnalités du gouvernement, donc ça ne touche pas le peuple, etc., etc. Or, les sanctions commencent en décembre 2014. Pourquoi décembre 2014 ? Parce que l'opposition échoue dans les urnes en 2013. Nicolas Maduro arrive à gagner. Il était prévu il avait en février, il avait 20 points d'avance
dans les sondages,
oui. Dans les sondages, et il arrive donc en avril, le 14 avril, avec 1,5% seulement. Voilà. Alors faut-il y voir la patte d'Ismaël Emelien, conseiller de Macron, qui a fait la campagne de Maduro ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce sont de très mauvais conseillers qui ont fait sa campagne, puisqu'il a perdu à peu près 20 points en 2 mois. Voilà, donc il faut toujours le rappeler, hein, parce qu'on dit toujours, machin, Jean-Luc Mélenchon, le Venezuela ou d'autres, etc. Il faut toujours rappeler quand même que le conseiller de Macron a fait la campagne de Nicolas Maduro.
Des implications des droites européennes contre lui.
Oui, non, mais, oui, et pour Maduro. Il a fait la campagne pour Maduro.
Oui,
hein,
il a, ouais.
Donc voilà. Alors, donc rappelons-le, c'était un petit aparté. Donc en 2013, il perd. Le perdant de l'opposition appelle ses partisans à contester le résultat et à prendre finalement Caracas. Bilan 11 chavistes assassinés, 65 blessés. Un an plus tard, c'est les fameuses guarimbas, c'est les fameuses blocages de rue, armées, etc. Qui se déclarent en 2014, notamment avec à leur tête l'opposant Léopoldo López, qu'on entend beaucoup aussi, mais c'est quand même lui qui avait dit « on ne s'arrêtera que lorsqu'on aura pris le palais présidentiel ». Je veux dire, avec arme à la main, viens faire ça sur les Champs-Élysées et tu verras ce qui va t'arriver. Et tu pourras chougner à l'international que tu es un prisonnier politique, mais à mon avis, tu iras directement en prison par rapport à l'article 412 alinéa 1 de notre code pénal qui, pour des faits similaires, prévoit la perpétuité et 750 000 euros d'amende. Donc, il lance ses partisans. Bilan 42 morts, 850 blessés. Donc là, mais par contre, ça échoue. Donc, ils vont, les États-Unis, parce qu'il faut les nommer, les États-Unis vont changer de stratégie. Et donc, ils vont approuver la loi 113-278 qui ouvre la possibilité de prendre des mesures unilatérales coercitives dans les domaines économiques et financiers. En 2015, le président Obama signe un décret qui déclare que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité et la politique extérieure des États-Unis. Décret qui est exactement le même que celui qui vient d'être signé contre le Nicaragua il y a quelques semaines. Pareil, Nicaragua, menace inhabituelle, etc. Des tout petits pays, on en rigole, non ? En fait, ces décrets et la loi précédemment citée, 113-278, vont être l'armature de toutes les sanctions financières. Les sanctions financières, c'est un blocus financier, c'est-à-dire pour empêcher le Venezuela d'avoir accès au dollar. Notamment, les banques ne vont plus accepter de virements du Venezuela pour le Venezuela ou pour le Venezuela. Elles vont fermer les comptes d'intermédiaires bancaires de toutes les institutions vénézuéliennes. Alors, les intermédiaires bancaires, en France, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si vous voulez, par exemple, faire un virement de Suisse ou de France au Venezuela, vous allez passer par un intermédiaire bancaire qui est généralement aux États-Unis. Donc, si vous fermez l'intermédiaire bancaire, votre banque française va dire « je ne peux pas faire le truc parce que mon intermédiaire ne me permet pas ». En plus de ça, il y a aussi des institutions financières qui vont geler des avoirs du gouvernement vénézuélien. Si on cumule, par exemple, il y a 3 milliards de dollars du gouvernement vénézuélien qui sont congelés. 1,6 milliard sont gelés par une entreprise qui s'appelle Euroclear, qui est une filière de JP Morgan, donc une grande banque des États-Unis. Donc voilà, la banque allemande Commerzbank ferme en mai 2016 les comptes de plusieurs institutions vénézuéliennes et les comptes de l'industrie pétrolière. En juillet 2016, la banque des États-Unis Citibank interdit à son réseau d'intermédiaires bancaires d'opérer des transactions avec le Venezuela. Donc du coup, effectivement, le pétrole qui est libellé en dollars, ou qui l'était d'ailleurs, parce que le Venezuela essaie de s'en sortir, ne peut plus être, ne peut plus faire des transactions avec cette devise. Donc ça fait des coûts opératifs et des coûts de change extrêmement importants, non ? Évidemment, des pertes pour l'État. Alors on va dire, mais pourquoi ils ne travaillent pas avec les Chinois, avec les Russes, etc. Bah tiens, regardez, le 21 août 2017, je saute, je ne dis pas toutes les sanctions, j'en ai 6 pages. Oui. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon blog romainmigus.info. Et de lire l'article, je fais de l'autopub, c'est horrible ça. Et de lire l'article, comprendre le blocus contre le Venezuela, où justement je les énumère, non ? Donc on dit pourquoi pas les Chinois et les Russes ? Eh ben voilà, vous voyez, c'est très simple. Donc je disais, je l'ai perdu. La Bank of China. Donc Bank of China, c'est chinois, non ? Informe le Venezuela que suite à des pressions reçues de la part du département du Trésor des USA ainsi que du gouvernement du Panama, parce que c'était donc la Bank of China basée au Panama pour les Amériques, elle ne réalisera plus aucune transaction en dollars depuis le Venezuela ou à destination du Venezuela. De la même façon, en août 2017, plusieurs banques russes informent le Venezuela de l'impossibilité de réaliser les transactions avec des banques vénézuéliennes en raison de la restriction imposée par les banques intermédiaires des États-Unis et de plusieurs pays européens. La banque intermédiaire, ça c'est encore en août 2017, la banque intermédiaire de l'institution bancaire BDC Chandong, donc chinoise, stoppe une transaction de la Chine vers le Venezuela d'un montant de 200 millions de dollars. Donc vous voyez, là, l'idée c'est quand même d'étouffer le Venezuela. En août 2017, Trump signe un autre décret, donc là qui vise notamment les titres de la dette de l'État vénézuélien et les titres de la dette de l'entreprise pétrolière vénézuélienne, pour justement éviter que le Venezuela puisse avoir accès au marché financier et au marché du dollar, pour l'assécher finalement financièrement. Alors je vous en passe, mais il y a des trucs assez intéressants. Regardez par exemple en octobre 2017, le Venezuela achète des vaccins et des médicaments à l'Organisation panaméricaine de la santé, qui dépend de l'ONU. Mm-hmm. Hein. En vertu de l'extraterritorialité des lois états-uniennes, la banque suisse UBS rejettera le paiement pendant 5 mois, ce qui retardera évidemment la livraison et qui déstructurera complètement le programme de vaccination gratuite de l'État vénézuélien. Le Venezuela achète des médicaments en novembre 2017 anti-malaria au laboratoire colombien BSN Medical. Le gouvernement de Colombie empêche la livraison sans aucune justification. Donc là, je passe, il y en a beaucoup trop, on n'a pas de temps, mais pour vous dire, par exemple, le Venezuela devait assister, par exemple, ça ne s'arrête pas au niveau de l'alimentation. Vous voyez, il y a eu un virement qui a été fait en mai 2018. Là, je peux vous en parler, parce qu'en plus, en mai 2018, pour l'achat de doses pour la dialyse. Le virement a été refusé absolument partout. Le Venezuela n'a pas pu importer les injections là, pour la dialyse. C'est 20 000 patients qui ont été touchés, dont le père d'une copine. Donc là, je peux vous en parler personnellement parce que du coup, j'ai vu comment le casse-tête que c'était pour que son père puisse faire son traitement. Et elle passait le plus clair de son temps à essayer de trouver les médicaments pour que son père puisse faire son traitement. C'est-à-dire que ça déstructure, évidemment, toutes les relations sociales. Elle, comme la copine me disait, elle m'a dit, je ne sais même plus, parce qu'on s'était vu dans un bar, on avait bu une bière, on est allé au resto, mais elle dit, je ne sais même plus depuis quand j'avais pu faire ça. Parce que j'ai plus le temps, tout simplement, entre son gamin, le père, le machin, les médicaments, etc. Ça déstructure la vie, évidemment, sociale, mais ça déstructure aussi la vie productive, la vie du travail. Parce que le temps qu'elle passe à chercher, elle ne passe pas forcément au travail, etc.
Ça donne naissance à du marché noir.
Et ça donne naissance aussi, évidemment, à du marché noir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté des sanctions, il y a aussi une spéculation sans nom contre la monnaie nationale. Depuis décembre 2012, c'est-à-dire le départ de Chavez à Cuba, et aujourd'hui, la spéculation contre la monnaie nationale, le bolivar, a atteint 13 millions de %. Donc, je ne sais pas si...
Un peu, c'est inimaginable.
Si vous pouvez vous représenter ça. Mais ça veut dire que la monnaie, il n'y a plus de confiance dans la monnaie parce qu'on spécule par notamment des taux complètement artificiels. Fixé depuis des pages internet, depuis l'extérieur. Et alors ça, c'est intéressant, parce qu'au Nicaragua, il se passait la même chose dans les années 80. Sauf qu'on n'avait pas Internet, et c'était le journal de Chamorro qui avait une petite colonne en donnant le taux du dollar parallèle par rapport au dollar fixe.
Chamorro qui succède à...
Chamorro qui, d'ailleurs, va gagner les élections présidentielles. Voilà. Et qui, le lendemain, le lendemain de sa victoire aux élections présidentielles, le taux de cotisation disparaît des pages. Et donc, ça, ce qui ne veut pas dire une stabilité immédiate. Parce qu'évidemment, les gens sont continuent à spéculer. Mais donc, ça veut dire aussi... Il y a eu aussi du trafic de billets. On a retrouvé, par exemple, au Paraguay, chez un commerçant, 30 tonnes de billets vénézuéliens. Alors, imaginez, beaucoup de choses se payent par carte aujourd'hui au Venezuela, mais pour prendre le bus, on a toujours besoin de billets. C'est excessivement dur. Donc, du coup, le billet est devenu une marchandise. Quand j'étais au Venezuela, je suis allé sur un marché, je demande un kilo de patates, c'est combien ? On me dit, un kilo de patates, c'est 850 en carte et 200 en cash. Ah bon ? Ah oui. Et si tu veux, il y a même des mecs au fond, là-haut, qui te vendent du cash. Parce que le cash, il va devenir une marchandise comme les autres. C'est un investissement.
Donc, on l'a rarifié exprès.
Et on l'a rarifié, évidemment. Évidemment, on l'a rarifié exprès. Donc, si vous voulez, c'est à ça. La vie quotidienne, évidemment, est devenue difficile. Mais elle n'est pas devenue difficile parce que, par le simple fait... De la gestion de Chavez ou de Maduro. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments externes qui sont mis là-dedans pour faire crier l'économie vénézuélienne, comme disait Nixon contre le Chili,
contre
non
le Chili, oui.
Faire crier l'économie vénézuélienne et faire souffrir le peuple. Donc là, on est encore dans la guerre de quatrième génération. Et ce qui a pu expliquer aussi le départ de certains Vénézuéliens vers d'autres contrées, non ? Donc de cette fameuse migration vénézuélienne, donc qui a été un des chapeaux médiatiques vers août, là, de juillet-août. Puis là, on n'en entend plus parler d'ailleurs.
Non. On en a reparlé pour le Brésil après Bolsonaro. Là.
Oui, mais on n'en entend plus parler. Et à mon avis, on va plus trop en entendre parler. Parce qu'il y a eu les migrants honduriens aussi. Et puis après, il y a des choses aussi. Il y a aussi le pacte de Marrakech qui est signé par beaucoup de pays qui se plaignent de l'immigration vénézuélienne. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais toujours est-il que selon les chiffres de l'ONU, 7,2% des Vénézuéliens vivent aujourd'hui en dehors du pays. Non, évidemment, c'est un chiffre important. Il ne s'agit pas de le nier. Quasiment un Vénézuélien sur 10, non ? Un petit peu moins. Et donc, au nom de cette migration, l'opposition vénézuélienne demandait le bombardement du pays, une intervention humanitaire, en donnant d'ailleurs les lieux où il fallait que les avions aillent. Enfin, il y a des vidéos de ça, d'Antonio Ledesma, d'ailleurs, en particulier.
C'est un des oppositionnels, oui.
Ouais, qui est un des opposants, un des plus radicaux. Mm-hmm. Et donc... c'est devenu finalement le thème pour justifier une intervention humanitaire et finalement renverser le gouvernement de Nicolas Maduro. Mais si on compare avec d'autres processus migratoires, je ne vais même pas aller dans le sud. Là, ça va être trop facile. Je vais rester dans le nord par chez nous. Selon les mêmes chiffres de l'Organisation internationale des migrations, les mêmes qu'ont établi les 7,2% pour le Venezuela, il y a 21% de Portugais qui vivent en dehors du Portugal. Il y a 16% d'Irlandais qui vivent en dehors de l'Irlande. Il y a 15% de Bulgares et de Polonais qui vivent en dehors de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On bombarde Lisbonne ? Non, mais il faut demander à tous les éditorialistes qui poursuivaient sur ces matrices d'opinion contre le Venezuela, si au nom d'une logique à peu près rationnelle, il faut aussi appliquer à Lisbonne la même politique de sanctions, la même politique de guerrière. Évidemment, non. Je rassure nos auditeurs portugais, lusophones et tous nos auditeurs, les auditeurs de Radio Galère, je ne veux pas, évidemment, bombarder Lisbonne, le Portugal que j'aime beaucoup. Il n'y a évidemment aucun problème là-dessus. Mais c'était un peu pour montrer l'incohérence de
ces échelles des problèmes.
Et donc, sur les sanctions économiques, non seulement elles attaquent donc l'accès du Venezuela au dollar, mais aussi, et les dernières notamment, sanctionnent les entreprises qui voudraient investir notamment dans la récupération du bassin minier de l'Orénoque, qui est la quatrième réserve d'or au monde. Le Venezuela est la quatrième réserve d'or au monde, première réserve de pétrole, et il y a des minerais à foison, notamment du coltan, on doit vous dire quelque chose, qui ouais. connaissait bien l'Afrique, ouais. et du thorium, qui est le minerai par excellence qui va devenir
un des minerais rares pour exactement. Cause de batteries électriques.
Ouais. Exactement. Donc, effectivement, le Venezuela a beaucoup de richesses, sans parler du gaz aussi, sans parler de l'eau douce, sans parler d'une montagne de richesses, et donc qui évidemment attise les prédateurs. Voilà. Ça, il faut bien le rappeler tout le temps. C'est pas de la méchanceté pure.
Non, mais c'est le prédateur c'est aussi, principal voilà. qui considérait que l'Amérique latine, c'était chez lui.
Voilà. Et ses vassaux. Et là, effectivement, on peut dire que on peut voir finalement l'absence de souveraineté non seulement de... Alors déjà de notre pays, qui pourrait développer une ligne diplomatique souveraine et justement profiter de cette guerre larvée que livrent les États-Unis au Venezuela pour justement avoir un jeu diplomatique d'équilibre et même de développement et de coopération avec ce pays. Voire de l'Union européenne, puisqu'on nous dit qu'elle est là pour contrebalancer le poids des Américains. Évidemment, là, on voit que non. Ils ont pris exactement le même type de sanctions que les États-Unis contre le Venezuela.
Voilà. Et donc, la France a été particulièrement agressive dans ses discours officiels.
Oui, mais alors là, c'est on sent qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, non ?
Alors, dis-nous. Parce que, dis-nous.
On a pu voir, par exemple, le 29... juillet, attends, je dis une bêtise, le 1er août 2017, un discours, donc le discours de M. Macron face aux ambassadeurs, voilà, ah oui, où il disait que le Venezuela est une dictature. Bon, très bien. Mais le 15 août, c'est-à-dire 15 jours après, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela était reçu au Quai d'Orsay. Donc il faut savoir, c'est-à-dire, soit la politique de notre pays, c'est de déclarer qu'un pays est une dictature pour pouvoir le recevoir. Donc c'est évidemment un scandale. Ou soit ça veut dire qu'il y a pas de communication entre l'exécutif, entre le président et son gouvernement, ce qui est aussi un scandale. Ouais. Bon, toujours est-il que donc pour Monsieur Macron, le Venezuela est une dictature. Ouais, or, vous vous rappelez de l'ouragan Irma.
Oui.
Voilà, il a dévasté Saint-Martin. D'ailleurs, Saint-Martin n'est toujours pas reconstruit, hein, soit dit en passant. Le jour d'après, les premiers à envoyer de l'aide aux habitants de Saint-Martin, c'est pas Paris, c'est Caracas. Ils mettent de l'eau potable, des vivres, des aliments non périssables, etc., etc. Ils montent ça dans un avion de l'armée bolivarienne du Venezuela et ils envoient ça à Saint-Martin. Donc ça veut dire que le pouvoir français autorise un avion militaire en provenance d'une dictature à atterrir sur notre territoire. Donc là, il y a deux choses. C'est-à-dire, soit ils l'ont autorisé, et donc finalement, peut-être pas forcément une dictature derrière les termes, ou soit ils ne l'ont pas autorisé, dans ce cas-là, c'est une invasion. Donc dans ce cas-là, on aurait dû bouter le bolivarien hors de notre territoire, puisque Saint-Martin est dans notre territoire. Donc vous voyez bien que là pour le coup, il n'y a pas de véritable... Et c'est ça qui est dramatique. Il n'y a pas de véritable objectif diplomatique, il n'y a pas de véritable plan stratégique. Je veux dire, on opère à vue et puis le pays doit s'accommoder des déclarations sensationnalistes contre un modèle politique, sans pour autant qu'il y ait un cap politique. Le Venezuela, avant M. Sarkozy, a eu d'excellents rapports avec la France, notamment sous M. Jacques Chirac. D'excellents rapports. La chaîne Télésource est beaucoup inspirée de TV5 Monde. Il y a eu des coopérations dans le domaine universitaire, il y a eu dans le domaine pétrolier, bien évidemment. Voilà, je veux dire, une politique indépendante et souveraine pourrait passer aussi par le fait d'avoir un rôle mesuré, un rôle médian par rapport à deux pays qui sont en conflit. Or, on ne l'a pas et on est à la botte des États-Unis dans ce domaine-là comme dans d'autres, mais ce n'est pas le sujet.
ça en fait quand même beaucoup partie. Alors, des sanctions, donc elles viennent principalement, elles sont orchestrées à travers les mesures donc, de l'exécutif des États-Unis, hein, donc les executive orders, les lois, et puis après elles sont relayées par toute une série d'organismes. C'est tout un système qui est en guerre contre le Venezuela, c'est pas simplement le gouvernement de Trump ou d'Obama.
Tout à fait.
Alors ce système, c'est... Alors il y a le FMI, la Banque mondiale, on le sait, et puis toutes ces ONG dont tu parlais.
Oui. Alors,
quel rôle elles jouent ?
Oui, exactement. Je suis retombé là sur, sur une autre sanction. Mais par exemple, pour vous dire à quel point... Pour vous dire... Je voudrais vous citer... le Venezuela a créé une crypto-monnaie publique, pour justement essayer de passer au-dessus des sanctions et donc d'opérer dans une monnaie différente. Eh bien, quelques jours après la naissance de cette crypto-monnaie, le président Trump signe l'ordre exécutif 13827 qui interdira à toutes les institutions et citoyens des États-Unis d'opérer dans cette crypto-monnaie. Donc, on est vraiment en guerre. Voilà. Non, je voulais
ça s'appelle le pétro.
Exactement, ça s'appelle le pétro et c'est indexé sur le prix du baril de pétrole. Le 29 janvier 2018, donc c'est pareil, j'invente rien, encore une fois, je ne suis pas un complotiste.
Indexé sur le baril de pétrole, c'est quand même mieux que la réserve fédérale des États-Unis qui est indexée sur rien, le dollar est indexé sur rien du
exactement.
Tout. Hein, on peut fabriquer du dollar en ayant zéro kilo d'or dans les réserves de Fort Knox.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Ben, puisque tu parles d'or, je reprends une sanction.
Oui, oui.
Mais il y a à peu près un mois, le 9 novembre 2018, la Banque centrale du Royaume-Uni, donc nos voisins, a refusé de restituer au Venezuela 14 tonnes d'or qui appartenaient à ce pays. Il s'agit ni plus ni moins d'une spoliation de 550 millions de dollars.
Un acte de guerre.
Voilà. Mmh. Je voulais vous lire. Une déclaration. Voilà, très bien. Le 29 janvier 2018, donc comme je disais, je ne suis pas complotiste, je n'invente rien, je veux dire, ça a été dit, allez sur le site du département du Trésor dans les conférences de presse, etc. Le département du Trésor des États-Unis affirme, ouvrez les guillemets, la campagne de pression contre le Venezuela porte ses fruits, les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement de ce pays à commencer à entrer en défaut de paiement, tant pour sa dette souveraine comme pour celle de PDVSA, l'entreprise pétrolière. Et nous pouvons assister à un effondrement économique total du Venezuela, donc notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. Voilà. À tous ceux qui disent que le blocus n'existe pas, à tous ceux qui disent que c'est un truc de parano, de complotiste, de je ne sais trop quoi, voilà, c'est pas moi qui parle, c'est le département du Trésor américain. Allez voir M. Mnuchin, il vous en dira plus.
Ça renvoie à une image de l'empereur romain, tu sais, qui mettait le pouce vers le bas. Hein, c'est exactement ça. Ouais. Qu'il meurt.
Il y a une petite... Une petite déclaration de William Brownfield aussi qui est sympathique. William Brownfield a été ambassadeur des États-Unis à Caracas, donc au Venezuela, et aussi en Colombie après. Non, et donc il était interrogé. Donc ça, c'est une vidéo. Donc pareil pour le complotisme, etc. C'est YouTube. Une vidéo où il était interrogé sur justement les sanctions et notamment sur pourquoi ne pas avoir sanctionné PDVSA plus tôt. Étant donné que PDVSA, l'entreprise pétrolière, produit 95% des devises du Venezuela. Le secteur privé ne produit aucune devise, ne produit pas grand-chose, mais aucune devise. Non. Et donc William Brownfield déclare « La meilleure résolution est de donc j'ouvre les guillemets, la meilleure résolution est de précipiter l'effondrement du gouvernement vénézuélien, même si cela implique des mois et des années de souffrance pour les Vénézuéliens. » Bon, voilà. Voilà, ça... C'est limpide, c'est pas moi qui parle, ni pour les déclarations que je viens de faire. Non, je dis ça parce que le blocus est absolument nié par toute la manne médiatique, par de grands nombres d'intellectuels, entre guillemets, je remets guillemets, parce que je peux pas les considérer comme des intellectuels, des experts de l'Amérique latine ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, encore une fois, c'est pas moi qui invente. Je veux dire, ce sont des faits absolument irréprochables. Donc les ONG, quel est le système d'ONG ? Ben, ils se prêtent justement là-dedans et ils se sont toujours prêtés depuis des années au Venezuela à finalement créer une voie en fonction de certaines communautés qui ne le représentent absolument pas, d'ailleurs. Donc, on peut avoir, par exemple, des représentants des indigènes vénézuéliens, etc. Sauf qu'il n'y a personne là-dedans. C'est trois personnes dans un bureau. Les indigènes sont tous chavis, par exemple. Alors aussi des centres de droits de l'homme, évidemment, écologie, blablabla, qui reçoivent des quantités astronomiques d'argent provenant des États-Unis, donc provenant de la NED, qui dépend, dont le budget total dépend
d'une décision du Congrès.
Du Congrès, voilà. La NED étant bipartie, puisqu'elle a deux branches, la NDI, donc plus liée aux démocrates, et l'IRI de feu John McCain, plus liée aux républicains, pardon. Et puis la USAID, qui, elle, est liée au département d'État, au ministère des Affaires étrangères. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système de financement d'ONG pour finalement subvertir des acteurs politiques et finalement gagner cette bataille psychologique contre le peuple dans sa totalité, c'est pas propre au Venezuela.
Alors, non.
On l'a vu dans tous les pays de l'Est. On peut parler de Freedom House aussi, qui a été dirigé par l'ancien directeur de la CIA, James Woosley, qui a laissé sa place à M. Peter Ackerman, qui est très lié au réseau atlantiste et un des promoteurs des révolutions de couleur. On veut dire, ces gens-là ont des pédigrés absolument géniaux qui méritent d'être étudiés. Et ce système d'ONG, évidemment, est à la base de ces stratégies d'ingérence et de subversion. Elles sont aussi à la base des révolutions ou des tentatives de coups d'État colorés, de coups d'État soft dans les pays. Alors des fois ça marche, comme en Ukraine, en Géorgie ou en Serbie d'ailleurs, en Yougoslavie à l'époque, qui a été le premier à inaugurer un peu ce système. Mais les ONG sont très, très, très présentes au Venezuela, en Équateur et en Bolivie. Et là où c'est, on va dire, rigolo, c'est qu'une fois que le gouvernement ne répond plus aux aspirations de la base populaire, c'est-à-dire qu'il rentre dans le rang et qui finalement se range derrière les politiques dictées par Washington, par le Fonds monétaire international ou par la Banque mondiale, ben finalement, on ne les entend plus, ces ONG. C'est le cas de l'Équateur aujourd'hui.
Ça y est, il n'y a plus aucun problème. Tout va bien.
Il y a toujours eu des plaintes des ONG durant la gestion de M. Rafael Correa, parce qu'en Équateur, en plus, le thème des ONG, il y a énormément d'ONG, parce que l'État avait été bradé à la charité des ONG.
Sur, soi-disant, la représentation des Indiens.
Voilà. Et sur les thèmes de l'écologie, sur aussi, les thèmes des Indiens, sur le thème des droits de l'homme, sur le thème des médias, de la liberté d'expression.
Ou l'extractivisme.
Sur les thèmes de l'extractivisme,
il ne faut pas extraire le minerai, c'est mauvais pour l'écologie.
Voilà.
Alors, ça va, on arrête tout.
et donc, effectivement, ces ONG qui, finalement, comme l'a dit d'ailleurs le président Rafael Correa, je suis un peu parti du Venezuela, mais c'est les mêmes stratégies.
Bien sûr.
Dans un discours très beau en 2016, il disait ces gens-là, ce sont des organisations sans responsabilité politique ni légitimité démocratique.
Absolument.
C'est-à-dire qu'elles n'ont de compte à rendre à personne et surtout elles n'ont aucun soutien démocratique. Personne ne va les élire. Enfin, à part les trois membres de leur conseil d'administration. Et puis, surtout, ils ont de comptes à rendre à personne, ce qui n'est pas le cas d'un parti.
Exactement.
Un parti, il est élu, puis il a des comptes à rendre. C'est-à-dire la responsabilité de politique d'être pour être jugé.
Par contre, elles ont de l'argent.
Elles passent à la télévision. Ouais. C'est très lié par rapport aux médias, évidemment, le but. Alors ça, au Venezuela, c'est surtout devenu aussi un business, parce que les gens savent bien qui est qui. Mais justement, ça devient un business. C'est-à-dire qu'il y a aussi la multiplication d'ONG pour pouvoir demander et finalement en vivre.
Du
dollar. Tant qu'à faire, ben oui, en face, il faut bien vivre de la subversion. Mm-hmm. Donc il y a aussi des guerres internes pour savoir qui aura la subvention la plus grosse, si je peux me permettre.
C'est ça.
Voilà. Donc effectivement, c'est un système qui, à n'en pas douter, autant les sanctions financières que l'isolement ou la tentative d'isolement diplomatique. Que ce système de subversion via des ONG ou via certains mouvements, ou, et je rajoute même, système de déstabilisation militaire, clandestin ou pas, on n'est pas dans un monde irréel. Je veux dire, ça existe au Venezuela en ce moment, puisqu'on parle du Venezuela, ça n'existe pas qu'au Venezuela, mais en ce moment ça existe au Venezuela. Mais si demain les Français décidaient d'aller plus loin
de
leurs revendications et de faire une révolution populaire comme il a été fait dans ces pays d'Amérique latine, n'ayez aucun doute. Il nous arrivera la même chose et peut-être même avec plus de force parce que le poids de la France n'est pas le poids d'un pays périphérique comme le Venezuela. Avec, je ne dis pas évidemment de mauvaise grâce, mais je veux dire le rôle du Venezuela était de pourvoir en matière première, en pétrole, les pays du centre de l'économie mondiale. Et la France, ça va être une autre paire de manches. Donc n'ayez aucun doute et préparez-vous justement à avoir des types de réponses adaptées parce que, et c'est bien connu, comme nous les Français, nous n'avons peur qu'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête, ils vont nous faire tomber le ciel sur la tête comme ils sont en train de faire tomber le ciel sur la tête des Vénézuéliens.
C'était ça qu'il fallait dire. Alors, je voulais, on peut, en matière de conclusion, dire qu'on est dans une situation totalement orwellienne, c'est-à-dire la guerre, c'est la paix, etc. Parce que, en fait, quand c'est le gouvernement et le président des États-Unis qui dit le Venezuela est une menace pour les États-Unis, il faut lire les États-Unis sont une menace pour le Venezuela. Il faut retourner totalement la phrase.
Hein. Évidemment.
Il y a le menaçant, n'est pas le menacé. Et donc, on arrive à écouter des discours qui sont totalement faux. Il faut inverser la proposition. Hein. Le Venezuela ne menace en rien les États-Unis. On
ne
voit
pas
en quoi. Il n'a pas envie, il ne l'a jamais dit, il n'en a pas les moyens. Et c'est l'autre qui met tous ses moyens à la disposition donc, de la destruction du gouvernement vénézuélien en affamant le peuple, en dressant le peuple contre son gouvernement. C'est ça qui importe. Tu as une musique pour terminer ?
Oui, je pense que là où tu dis... Voilà, celle-là, parfait. Une musique un peu rock.
Donc,
donc là, on l'a programmée.
On l'a programmée. Et puis, il faudra qu'on reparle de ce qui se passe après la non-inauguration du pouvoir par Maduro, vu depuis Paris et depuis la France. Qu'est-ce qui va se passer courant janvier ?
Voilà,
exactement. On va dire, mais ce monsieur, il est élu de rien du tout. Hein ? Et donc, on ne le reconnaît pas.
Oui.
Donc,
ça va être intéressant parce que le système qu'il a élu
est
le même système qui avait permis l'élection de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, partout où vous voulez voir, il n'y a aucun élément tangible. Ça a été reconnu par plusieurs organisations comme une élection transparente. Il n'y a pas eu de doute là-dessus.
Même de ceux qui aujourd'hui disent on ne le reconnaît pas. Ils n'ont rien dit à l'époque.
Bien sûr. Ils ont dit que dans le contexte de la guerre économique et des sanctions qu'ils ont eux-mêmes provoquées, le gouvernement avait répondu, c'est là ce que je disais, les claps, c'est-à-dire il avait répondu avec la distribution, je dis distribution parce que le prix était tellement dérisoire, d'une caisse de 17 kilos des aliments de base du panier de la ménagère vénézuélien. Mais il y avait un problème. Le gouvernement s'est rendu compte que c'était surtout c'était la distribution qui posait problème. Et beaucoup des produits étaient déviés pour partir en contrebande, notamment en Colombie.
En Colombie, bien
sûr. Et donc, ils ont inventé, alors là, tenez-vous bien, ils ont inventé un système de distribution d'aliments public et participatif pour 18 millions de personnes.
Ce qui n'est pas rien.
Donc, je le résume, parce que ça montre bien comment ils inventent absolument tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, je peux vous en parler à la première personne, puisque je l'ai moi-même vécu, dans l'appartement où je vis, où il y a une cousine, qui... donc, le conseil communal, dans ce cas, c'est le conseil communal, mais ce n'est pas obligé. Il y a une représentante pour l'étage, qui est à peu près 20 familles. Et une fois par mois, elle reçoit un coup de fil comme quoi les caisses sont arrivées. Donc, il faut trouver un transport. On va chercher les caisses, les 20 caisses. Les gens font un virement. Et ensuite, ils peuvent venir chercher les caisses chez elles. Voilà. Et il n'y a pas de... Parce que les voisins, moi, je les connais. Je sais très bien qu'à peu près 60-70% sont d'opposition. Tout le monde reçoit sa caisse. Ce n'est pas le problème. Et en fait, vous montez un comité donc, local d'approvisionnement et de production. C'est comme ça que ça s'appelle, le CLAP. Mais j'ai des amis qui sont responsables de CLAP dans leur quartier. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils établissent la liste des 20 familles autour d'eux qui ont besoin de ces aliments, justement, parce que les prix sont ultra subventionnés pour le coup. Pour vous rendre compte, quand j'y étais, le prix d'une caisse de 17 kilos de nourriture équivalait au prix d'un citron vert sur le marché privé.
D'accord.
Donc voilà, c'est extrêmement dynamique encore, et évidemment c'est ce qui permet à ce peuple de résister encore et encore, de nous donner des leçons d'avenir.
Bien sûr. Bon, on espère que tu viendras nous en donner d'autres, parce que c'est toute une perspective, hein, de changement dans les rapports sociaux dans un pays qu'on considère comme une dictature, si j'en crois le président de la République française par intérim. Merci Romain Migus d'être venu nous raconter cette expérience.
Ben merci à toi, merci à vous tous.
Et
merci,
on se reverra certainement bientôt. Merci Sidi.
La amenaza quieres tú, el Jackie Food y you.